je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà en respect.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette émission du lundi 29 avril 2024.
Et aujourd'hui nous sommes avec Damien Scali, cheminot de la SNCF du côté de Lille, et nous serons à partir de 13h avec Ahmed Béral, conducteur de bus au centre bus d'Aubervilliers, centre bus RATP. Pour le moment, et nous allons parler des attaques de l'État contre le droit des salariés, le droit des travailleurs, notamment le droit de grève ou les menaces contre le fonctionnariat. Donc je te laisse te présenter un peu plus que je viens de le faire, Damien.
Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle Damien Scali, comme tu l'as déjà dit. Et donc je suis cheminot, je travaille à la SNCF depuis 2016 et je suis aiguilleur du rail, donc on s'occupe de la circulation des trains, les itinéraires, etc. Donc dans la région de Lille, et je suis militant à la CGT, voilà.
D'accord. Donc pourquoi on t'a invité ainsi qu'Ahmed plus tard, c'est que depuis quelques temps on a une série d'attaques massives contre, d'abord on connaît la chanson, hein. D'abord les cheminots, parce que ce sont soi-disant des privilégiés, et ça va se prolonger sur l'ensemble des fonctionnaires dans un premier temps, puis l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et ces deux attaques-là, un peu simultanées, ce sont d'abord la limitation du droit de grève, et ce qui est tombé un peu plus tard, c'est la facilitation du licenciement des fonctionnaires. Du côté de la SNCF, cette limitation du droit de grève est portée par un sénateur des Alpes-Maritimes. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fédération LR des Alpes-Maritimes, c'est celle du très droitier député Ciotti. Et donc ce cher Philippe Tabarot, sénateur des Alpes-Maritimes, veut limiter le droit de grève. Veut qu'il y ait 60 jours, donc 2 mois par an, où les grévistes ne pourront, en tout cas les salariés de la SNCF et de l'ensemble des transports publics ne pourraient pas faire grève autour des vacances scolaires, des fêtes nationales et des jours dites spéciaux ou importants pour le pays, c'est pas très clair. Et aussi limiter les comment tu vas m'aider, limiter les possibles les dépôts de grève à 30 jours consécutifs. Les préavis, merci. Limiter les préavis à 30 jours consécutifs. Donc, qu'est-ce que ça pourrait provoquer pour le droit des grévistes ? Et ce qui nous ramène à une précédente loi qui a été déposée par sous Sarkozy, qui était le service minimum des transports. Le service minimum des transports, c'était que durant une grève, il y avait une période, c'est-à-dire le matin aux heures de pointe et le soir aux heures de pointe, où il y avait un minimum de salariés qui ne pouvaient pas faire grève et qui donc continuaient le travail comme si de rien n'était. Et on se souvient de cette célèbre phrase de Nicolas Sarkozy qui disait que grâce à lui, en France, quand il y avait une grève, on ne le remarquait plus. Bon, finalement, on a découvert que c'était faux, mais quand même, c'était l'une des premières attaques massives contre le droit de grève. Alors, à la SNCF sur le service minimum, comment ça se passe maintenant, le fait de pouvoir faire grève avec ce service minimum? Et si cette loi sur la limitation du droit de grève passe dans les transports, qu'est-ce que ça va provoquer?
Ouais, bah, t'as évoqué plein de trucs divers hein, sur le droit de grève, etc. Bon, avant de dire un mot précis sur les questions que tu poses, quand même, on sent que, contrairement à ce que Sarko y claironnait justement en 2007, la grève, ça se voit, et même ça leur donne des boutons, des sueurs froides et des sacrés cauchemars. C'est quand même pas nouveau, ces tentatives de s'en prendre au droit de grève. C'est vrai que pour le député que t'as cité, et puis tout un tas d'autres, hein, on a un peu l'impression qu'ils ont envie de revenir au 19e siècle, hein, à l'époque où la grève était interdite et le droit de s'organiser syndicalement ou de s'organiser tout court pour les travailleurs et les travailleuses, c'était interdit. Bon, ils sont un peu nostalgiques d'une certaine époque pour, quelque part, aggraver les conditions de vie, les conditions de l'exploitation pour le patronat. Donc c'est quand même ça hein, qui se cache derrière. C'est, je sais pas, là, ils discutent de... principe constitutionnel, que sais-je encore. Bon, derrière, la question, c'est le rapport de force qu'ils veulent instaurer pour faire passer toutes leurs attaques, en réalité. Et là, cette nouvelle proposition, alors, dans le détail, c'est un peu différent que ce que tu as évoqué, mais peu importe, qui a été votée par le Sénat, elle fait suite, de nouveau, à plusieurs grèves menées notamment par les collègues contrôleurs de la SNCF, qui, par ailleurs, ont quand même réussi à obtenir des choses, des avancées pour les conditions de travail des cheminots. Bon, je reviendrai dessus si on a le temps, mais je passe vite. Et c'est ça, en fait, qu'ils voudraient éviter. C'est des mouvements de résistance, de contestation, qui risqueraient d'être un peu un grain de sable dans leur machine à faire du profit, quoi. Et la SNCF, bah, ça échappe pas à cette logique, parce qu'ils voudraient, bah oui, transformer la SNCF en une machine à faire du fric. Et le service public qui vend tant en permanence en disant « Oh là là, ils prennent les usagers en otage, etc. », ils s'en rappellent que quand il y a des grèves, hein, quand il s'agit d'exercer un chantage contre les grévistes, contre les cheminots. Le reste de l'année, ils en ont quand même un petit peu rien à foutre, parce que les suppressions de postes, les trains qui sont en retard ou supprimés, ça, il n'y a pas de problème. Parce que, et on tient quand même à le dire, c'est la CGT qui rappelait ça, 98% des problèmes de circulation des trains, donc, que rencontrent les usagers, donc les retards, les suppressions, etc., ne sont pas dus à des mouvements de grève, mais sont dus à un sous-investissement, un problème de manque de personnel, etc. Bon, et en fait, c'est ça le problème. Et les grèves qu'on essaye de mener, les combats qu'on mène, nous à la SNCF et dans toutes les autres boîtes en réalité, c'est pour défendre nos conditions de travail et nos conditions de vie. Et du point de vue même des usagers des transports, ce qu'il faut quand même un peu se dire, c'est que les conditions de transport des gens, c'est égal aux conditions de travail des cheminots. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de prendre le problème. Donc des bonnes conditions de travail pour les cheminots, c'est des bonnes conditions de transport pour les gens qui prennent le train, les métros, les bus, Ahmed il en parlera tout à l'heure, tous les jours. Bon, donc ça c'est quand même un peu un petit préambule quand même, hein, pour qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer. Après, là, ce que tu évoques, pour l'instant, ça reste en tout cas des ballons d'essai. C'est-à-dire qu'on a cette loi votée au Sénat, mais donc qui n'est pas encore vraiment une loi.
Qui n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale.
Voilà,
c'est ça. Ensuite, les députés macronistes vont nous faire le coup de « nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes, nous sommes contre ce projet de loi » et ils vont se faire passer pour les gentils.
Bah là, pour l'instant, ce qui les fait un peu flipper, c'est les JO. Parce que, en fait, c'est tellement la catastrophe du point de vue de l'organisation des JO. Macron, il a beau promettre qu'il va aller se baigner dans la Seine, quelque part, vu l'état de la Seine, on a presque envie de l'encourager à faire ça. Hein, voilà.
Le ministre de la Justice, d'ailleurs, a dit qu'il a pris comme excuse qu'il était de la Méditerranée pour dire « je ne me baigne que à 25 degrés », mais en vrai...
Voilà. Bah, je sais pas à quelle température à l'eau de la Seine, hein, vu le nombre de trucs qui doivent circuler dedans. Bon, bref. Comment dire ? Ouais, voilà, les JO, là, c'est vrai que c'est... rien que leur propre organisation, on voit déjà le bazar que c'est. Ce qu'il y a quand même derrière, c'est l'exploitation des travailleurs sans papier sur les chantiers de construction. C'est les étudiants qui sont littéralement foutus dehors de leur résidence pour loger d'autres gens. Bon, voilà, ça va être un peu une catastrophe annoncée. Et en plus, ils voudraient éviter à tout prix un embrasement social ou toute forme de contestation pour des travailleurs qui voudraient revendiquer dans cette période-là. Dont les salariés des transports dont je fais partie, quoi.
D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de la grève des contrôleurs qui a eu lieu récemment et qui...
C'est une grève en plusieurs épisodes, hein, parce que l'origine de tout ça, ça remonte à 2022, donc ça fait un an et demi maintenant, en décembre 2022, où les collègues, qu'on appelle contrôleurs, mais faut savoir quand même que leur activité et pas du tout limité aux missions de contrôle. Alors c'est vrai que la direction voudrait les transformer en chasse à la fraude et en faire un peu des mecs qui foutent que des amendes. Mais quand même, c'est des missions essentielles, hein, pour faire circuler les trains, des missions de sécurité.
Tu peux rappeler en deux secondes ce que c'est qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bah, en fait, pour faire rouler un train, je ne vais pas rentrer dans tous les détails un peu techniques, mais pour faire rouler un train, il y a tout un tas d'opérations que nous, on appelle de sécurité ferroviaire. Donc, il faut faire un certain nombre de vérifications, que tout est bien en ordre, etc. Au moment du départ du train, c'est le contrôleur qui est chargé de faire un certain nombre de vérifications de sécurité ferroviaire pour être sûr que le train va circuler dans des bonnes conditions. Voilà, c'est une répartition des tâches et le contrôleur a à sa charge tout un tas de choses là-dessus. Il a aussi à sa charge l'accueil et la mise en confort des usagers. Ce qui est quand même important, hein, parce que quand il n'y a pas de clim dans les trains en été, c'est quand même pas rien. Quand il y a des problèmes et qu'il faut organiser le fait que les gens ils puissent prendre des bus, ils puissent prendre des taxis, parce qu'il y a un problème, le train il est en retard, ou il y a des soucis, ça peut arriver. Bon, tout ça, c'est la responsabilité des contrôleurs d'être l'interface avec les usagers et tout le monde. Donc, c'est certainement pas que des collègues qui foutent des amendes, même si c'est un peu ça que la direction elle voudrait faire.
En fait, c'est un chef de bord, en fait.
Bah, leur titre, comment appeler ça, ça s'appelle chef de bord. Hein, c'est comme ça que c'est dénommé. Enfin, il y a un chef de bord à bord de chaque train. Et juste un mot quand même là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu un accident assez grave l'accident grave justement, y compris qui aurait entraîné des morts, hein, avait été évité de justesse grâce à un conducteur de train qui avait pu faire une protection de son train qui était en danger à un moment donné. Bon. Et il était seul en fait à bord de son train. Il était seul parce que la politique de la direction de la SNCF, c'est de supprimer justement les contrôleurs, les collègues qui sont dans les trains et de n'y laisser que les conducteurs. C'est un dispositif qu'ils appellent l'équipement agent seul, en jargon SNCF, où ils veulent du coup, comme ça, supprimer, faire qu'il n'y ait plus qu'un conducteur dans le train, quoi. Ce qui pose des problèmes phénoménaux, notamment en cas d'insécurité ferroviaire,
etc. On ne peut pas transformer un conducteur en chef de bord en même temps.
Eh bien, c'est exactement le problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas que pour les conducteurs et les contrôleurs, il y a un peu pour tous les métiers de l'entreprise où ils veulent développer ce qu'ils appellent la polyvalence. Donc, c'est nous rajouter un bras, un cerveau et quatre pieds pour qu'on puisse faire plein de trucs en même temps et surtout pour permettre de continuer à assurer un minimum de productivité alors qu'il y a des dizaines de suppressions de postes dans plein de services et qu'on coule un peu quand même sous la charge de travail de partout, quoi. Donc voilà un peu le tableau, on va dire.
Et toi, à titre personnel, t'es aiguilleur. Quel est l'état des aiguillages à la SNCF? On sait qu'à Paris-Nord, il y a plein de problèmes. Au départ de la gare de Paris-Nord, il y a plein de problèmes, que les voies sont vétustes, qui datent quasiment même de la création de la SNCF dans les années 30. Quel est l'état des aiguillages d'un point de vue national? Ou en tout cas, du côté de chez toi, Lise?
Bah, c'est très variable, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème d'investissement dans la maintenance, dans l'entretien du réseau. Ça, c'est une certitude. Donc, y a plein en fait, de situations où, par exemple, les trains sont plus lents que ce qu'ils devraient avoir comme vitesse. Donc, ça crée des retards, ça crée des perturbations pour les usagers parce qu'en fait, on met des limitations de vitesse sur les voies, sur les rails. Donc, les trains roulent moins vite. Parce que s'ils circulaient à vitesse normale, ça risquerait de poser des problèmes de sécurité, par exemple. Donc voilà, il y a des situations comme ça qui deviennent complètement ubuesques et où, bah oui, on se demande bien où on va. Et c'est vrai qu'on a l'air un peu d'aller dans le mur, quoi, avec tout ça, quoi.
Juste avant de parler justement de la privatisation rampante de la SNCF, il y a donc cette deuxième proposition qui vise là tous les fonctionnaires de faciliter le droit de grève. De faciliter le licenciement des fonctionnaires, pardon. Ça a déjà été grandement attaqué à la SNCF par deux lois successives ces dernières années. Toi qui es... Alors, je ne sais pas si tu as le statut.
Non.
Il me semble que tu ne l'as pas. Pour les derniers qui ont le statut, qu'est-ce que ça change? Et d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on vise à travers cette potentielle loi et qu'est-ce que ça entraînerait?
Mais là, encore une fois, juste pour dire un mot sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui nous dit qu'il veut, même si voilà, c'est un petit effet d'annonce, encore une fois, un petit truc qu'ils ont lâché comme ça pour voir comment ça passe, mais qui nous dit qu'il faudrait licencier des fonctionnaires. Alors que partout, à la SNCF, même s'il n'y a plus le statut, comme tu dis, mais partout où il y a le statut de la fonction publique, dans les hôpitaux, dans tout un tas de services de l'État, ce qu'on a besoin, c'est de plus de monde, certainement pas de moins de monde. En fait, le problème, il est vraiment à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas des licenciements dont on a besoin, c'est des embauches massives. C'est des conditions de travail qui s'améliorent, notamment du point de vue des salaires, parce que bon, ça fait quand même sacrément aussi partie du problème. La question des salaires aujourd'hui, avec l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter, le coût de la vie, pendant que, à l'autre bout de l'échelle sociale, il y a quand même une petite minorité qui s'en met plein les poches. Bon. Donc je dis tout ça parce qu'en fait, c'est pas des choses qui surviennent dans un ciel serein, tout ça. C'est des petits ballons d'essai qui accompagnent l'offensive sociale qu'ils essayent de mener depuis des dizaines d'années maintenant. Donc là-dessus, le but, c'est de pas se laisser faire. Partout où il y a des travailleurs de la fonction publique qui sont concernés, il ne faudra pas se laisser faire s'ils décident de passer aux travaux pratiques. Nous, à la SNCF, le statut il a été supprimé depuis 2020. Donc tous les nouveaux collègues embauchés depuis cette date-là sont en CDI, en contrat de droit privé. Moi-même, je suis en CDI, en contrat de droit privé, parce que j'ai été embauché à plus de 30 ans à la SNCF et quel que soit à l'époque, même quand il y avait encore le statut, si tu avais plus de 30 ans, de toute façon, tu rentrais en CDI. Mais tout ça, bon, je tiens quand même aussi à dire que certes, ça change des choses, mais c'est aussi une manière de diviser, de créer une multitude de statuts, de différences de statuts entre statutaires, non statutaires. Il y a plein d'intérimaires aussi dans la boîte et tout. Bon, nous, de toute façon, on se serra les coudes, quoi qu'il arrive. On ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a écrit sur la fiche de paye ou administrativement ce qu'on veut. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien qui peut tourner dans cette boîte, dans toutes les boîtes du pays, sans notre boulot, quoi. Donc ouais. Ça, c'est ce qui va compter à la fin.
Justement, nous, on va un peu regarder. Quelle est la grille salariale à la SNCF?
Trop faible.
C'est quoi les différents statuts? Et surtout, depuis quelque temps, il y a plus de cadres que d'agents de terrain à la SNCF. Il me semble que c'est la CFD... Non, même la CFE-CGC qui est devenue majoritaire dans les dernières élections,
non.
Il me semble.
Non, c'est la CGT qui est toujours majoritaire.
Mais
assez largement, ouais.
Ouais, mais ils ont grimpé quand même.
Oui, alors enfin, je t'avoue que le détail du score de la CGC, je ne le connais pas.
Mais il y a de plus en plus de cadres dans une entreprise de transport.
Oui.
Et pareil, y a la SNCF met plus d'argent sur la route que dans le rail, c'est-à-dire que ce soit au niveau du transport public avec Keolis et le transport routier face au fret avec Geodisc, Albertsen notamment.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ?
Bah pour dire un mot quand même sur ce qu'est la SNCF aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ils nous font le refrain du service public, mais c'est du bluff. Parce que la SNCF, c'est une multinationale en réalité. Une multinationale capitaliste comme une autre. C'est 1200 filiales à travers le monde, la SNCF. Donc la SNCF, c'est le métro à New York, par exemple. C'est la circulation du métro à Abidjan. C'est ça, la SNCF. Donc via ces multiples filiales, elle s'auto-concurrence elle-même, avec ce que tu viens d'évoquer, entre les différents modes de transport et de circulation des marchandises. Donc sur la route, sur le rail, les différents modes de transport des usagers. Donc elle met en concurrence ses propres activités pour rentabiliser au maximum. Et le nouvel étage du millefeuille de cette division de l'entreprise en une multitude de petites filiales, ou petites d'ailleurs, ou plus ou moins petites, hein, il y en a des très grosses, c'est cette ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire voyageur qui va arriver, mais dont on parlera peut-être après. Mais donc voilà, c'est ça la SNCF. Et donc, ben, la boîte, elle traite ses salariés comme dans n'importe quelle boîte en fait. Donc les salaires.
Ouais, donc la grille salariale, ouais. Tu peux.
Bah, la grille salariale, c'est assez simple, ça va du SMIC, comme partout, à 400 000 euros. Ça, c'est le salaire de notre PDG, Farandou. Donc comme c'est encore une entreprise qui a, vous savez, 400 000 euros, c'est le salaire le plus haut qu'un PDG d'une entreprise publique peut avoir. Donc c'est sûr que par rapport à ce que vient de toucher Carlos Tavares à Stellantis, donc le PDG de Stellantis, donc qui construit des bagnoles, etc. C'est je sais pas, peut-être Farandou, il est un petit peu jaloux.
PSA, c'est Peugeot Citroën.
Ouais, voilà. Ouais, Stellantis, c'est la fusion de différents constructeurs automobiles, donc Peugeot, Fiat, Chrysler, etc. Bon. Mais 400 000 euros, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, on imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes de fin de mois.
Par exemple, toi, en tant qu'aiguilleur, CDIZ, donc,
ouais.
Tu es à combien ? Et combien, à combien peut-être quelqu'un qui est en CDD ?
Ah, c'est très variable, je te
alternant.
Dis. Ça va, en fait, les salaires, ça va, pour rentrer un peu dans le détail, ça va du SMIC. Moi, par exemple, quand je suis rentré à la SNCF, j'ai fait un an au SMIC. Aujourd'hui, donc après plusieurs années dans la boîte et le type de poste, enfin peu importe que je tiens, je suis à environ 2200 par mois. Et donc, tu as une grille salariale qui est très variable. Il faut savoir qu'à la SNCF, il y a beaucoup du salaire qui est lié aux différentes primes. Par exemple, nous, ce qui fait le salaire à l'aiguillage, à la conduite, au contrôle, dans tout un tas de services, c'est les éléments variables. C'est-à-dire quand on bosse de nuit, quand on bosse très tôt le matin, très tard le soir. Moi, par exemple, je travaille en 3-8. Donc là, par exemple, je bossais de nuit. Là, ce soir, je reprends de nuit. Donc voilà, ça fait... une petite vie sympathique, quoi, pour le sommeil et compagnie. Mais c'est ça qui fait, par exemple, les collègues au contrôle ou à la conduite, quand ils se déplacent à l'autre bout de la France et qu'ils dorment, par exemple, loin de chez eux, ça fait un élément important du salaire. Évidemment, on imagine bien que ça a une répercussion importante sur les conditions de vie. Par exemple, bon, je l'ai dit, c'est pas du tout une fierté, mais c'est pour que les gens se rendent compte un petit peu, conducteur de train, c'est un des métiers où il y a le plus haut taux de divorce, par exemple. Parce qu'on se rend compte que, bah oui, c'est difficile quand tu es loin de chez toi, de
avec
pouvoir... le découchage avec la famille, le conjoint, la conjointe, etc. Donc voilà, c'est ça, quand même, la vie de cheminot, quoi. Et pour les collègues qui sont dits sédentaires, c'est-à-dire qui bossent, par exemple, dans les voies, qui font la maintenance dans les voies, pour réparer les aiguilles, pour réparer les rails... Pour les collègues qui bossent dans les ateliers de maintenance. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des technicentres. Donc, ça, c'est les usines de la boîte. Où c'est une usine, comme vous pouvez imaginer une usine, bah, les salaires, quand vous avez 20 ans d'ancienneté, bah, c'est 1800 balles, par exemple. Donc, voilà, c'est un prolétariat, les cheminots, comme un peu tous les autres, avec une grille de salaire qui est assez diverse, mais où globalement, Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas le compte. Il n'y a pas le compte. Et il nous manque de quoi finir les fins de mois, de quoi pouvoir vivre et pas survivre. Tous ces slogans-là qu'on a pas mal entendus dans les manifs, c'est une réalité concrète pour tout un tas de collègues, quoi.
Et donc, par-dessus tout ça, il y a la régionalisation. Donc, en gros, la SNCF est une entreprise nationale, publique, et toute une série de lois est venue donner plus de pouvoir aux régions sur les transports, et donc ce qui fait que on n'a pas le même, on n'a pas les mêmes conditions de transport entre, par exemple, la région de Normandie et la région Île-de-France. Qu'est-ce que ça implique pour la SNCF, selon les régions, et pour les usagers?
En fait, c'est la régionalisation, ça existe depuis un moment.
La privatisation,
voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les TER, par exemple, donc les trains dont tu parles, ou les transiliens en région parisienne, c'est des choses qui sont contractualisées. C'est-à-dire que c'est les régions qui font des appels d'offres. Enfin, c'est les régions qui passent des contrats avec, en l'occurrence jusqu'à présent, la SNCF, qui était l'opérateur unique. Et ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence, donc souvent dans le langage courant on dit privatisation, même si c'est un peu un abus de langage, je vais expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est l'idée que ces appels d'offres, il va y avoir maintenant des appels d'offres passés par les régions tous les 4-5 ans, et que plusieurs entreprises vont pouvoir répondre à cet appel d'offres et vont pouvoir du coup faire rouler des trains dans les années à venir. Ça a déjà commencé. Bon.
En région PACA notamment.
En région PACA, dans ma région, dans les Hauts-de-France, ça a déjà commencé et tout. Juste pour vous donner, pour prendre les choses de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture à la concurrence? Ça veut dire que y aura... Est-ce que ça va être une amélioration? Pas du tout. En fait, le but de l'ouverture à la concurrence, c'est en fait la mise en concurrence des salariés du ferroviaire dans leur ensemble. Pourquoi je dis ça? La manière dont c'est organisé, c'est que les entreprises qui vont récupérer les appels d'offres et qui vont demain faire circuler des trains vont récupérer en même temps le personnel qui s'occupe actuellement de faire rouler des trains. Donc votre conducteur de train qui vous emmène au boulot tous les matins, qui aujourd'hui est un cheminot SNCF, demain, quand il y a une autre entreprise qui aura gagné l'appel d'offres, ce sera exactement la même personne. Donc c'est Jean-Louis ou Martine qui conduit le train. Ça sera toujours Jean-Louis ou Martine qui conduira le train. La seule différence, c'est que ce ne sera plus un cheminot SNCF, disons aux conditions de travail SNCF, ce sera sous une autre entreprise ferroviaire qui pourra s'appeler X ou Y. Et donc évidemment, l'opération, elle consiste à faire que ces conditions de travail pour Jean-Louis ou Martine soient dégradées pour pouvoir rentabiliser le transport de voyageurs. Et cerise sur le gâteau, ceux qui sont en train de remporter les appels d'offres dans les différentes régions, là où le processus a déjà commencé, eh ben, c'est la SNCF elle-même, par le biais de ses filiales. Exemple, sur le réseau ferré de Amiens, donc ce qui entoure la ville de Amiens et qui transporte les gens, comme je viens de dire, du soir au matin pour aller au boulot ou pour leur usage personnel, jusqu'à présent, c'était des trains qui étaient des trains SNCF. L'entreprise qui a remporté l'appel d'offres de ce qu'on appelle l'étoile d'Amiens, elle s'appelle SNCF Étoile d'Amiens. Donc on pourrait se dire, mais rien n'a changé. Sauf qu'en fait, tout a changé. Parce que cette nouvelle entreprise, c'est une filiale de droit privé de la SNCF elle-même, cette fameuse multinationale dont je vous parlais juste avant, et qui du coup peut réembaucher son propre personnel aux conditions du privé. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça l'ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs, qui va absolument pas être une amélioration ni pour les cheminots ni pour les usagers. Juste un mot, je finis, pour donner une idée. Comment la SNCF, par exemple, moi, dans ma région, elle a gagné les appels d'offres par le biais de ses propres filiales. Elle les a gagnés en promettant de faire circuler plus de trains à moyens équivalents. Donc vous imaginez le délire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura aucun investissement supplémentaire. Par contre, ils vont nous faire bosser de plus en plus dur pour assurer une productivité. Bon, alors là, c'est sûr, hein, on va dans le mur.
Ben, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que ça provoque pour le salarié? Tu disais pour l'étoile d'Amiens, un moyen équivalent. Par exemple, ça veut dire quoi pour le salarié de la SNCF pour ses traitements, c'est-à-dire son salaire, est-ce que ce sera baissé de facto, etc. Très vite, parce qu'on doit faire la pause musicale.
Bah, tout ça, c'est en cours de négociation, comme on dit, c'est-à-dire en fait en cours de bras de fer. C'est comme ça que nous, on dit. Pour l'instant, par exemple, sur le salaire, ce que le patronat du secteur propose, faut comprendre qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les détails techniques, ils nous font un truc sur la garantie du salaire net, mais en fait, quand tu rentres dans le détail, c'est une moyenne sur la dernière année. Et une moyenne sur la dernière année, bah, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, parce qu'en fonction de tes jours de grève, de tes arrêts maladie, de tout ça, et bah, en fait, tu peux être réembauché à un salaire inférieur. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune garantie pour les cheminots à ce niveau-là. Donc nous, ça fait partie du bras de fer, hein, parce qu'évidemment, ça, c'est le plan du patronat du secteur, dont la direction de la SNCF est l'un des principaux chefs d'orchestre. Mais du point de vue des salariés, des cheminots, des cheminotes, bah, on ne va pas se laisser faire. Et on peut compter, quelles que soient les prétentions des sénateurs de droite, de gauche ou que sais-je encore, sur la combativité et les grèves qu'on va mener dans les prochains mois.
Quand tu disais salaire net, c'est salaire net sans la part variable.
Non, salaire net, c'est salaire net en langage courant, quoi.
D'accord. Juste une dernière question. Qu'est-ce que représente en pourcentage la part de salaire fixe par variable ?
Ça dépend vachement de quel métier tu fais dans la boîte. Si tu fais, par exemple, les conducteurs ou les contrôleurs, ça représente énormément. Par exemple, un contrôleur, ça peut représenter quasiment la moitié de son salaire. J'exagère peut-être un peu, mais on est à peine moins de la moitié du salaire, par exemple. Donc, quand tu es en arrêt maladie ou quoi, tu peux perdre énormément. Donc, c'est ça qui fait que tu as des salaires parfois un petit peu plus élevés, mais que du coup, ça peut être très variable. Chez les collègues qui ont moins de parts variables, bah, ils ont tout simplement des salaires plus faibles. Donc, c'est tous les collègues dont je parlais, dans les ateliers de maintenance, etc.
Donc, du coup, maintenant, la pause musicale. Et ensuite, on retrouve Ahmed de la RATP.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that glitters gold after story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up, stand up for your right.
Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unhurt. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up,
jab, jab.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
we gonna stand up for,
yeah,
all right?
Yeah,
so
yeah.
You better get up.
Don't give up the fight.
Don't give it.
fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes. Et aujourd'hui, dans cette émission en direct, nous parlons de l'attaque sur le droit de grève dans les transports.
Bonjour Ahmed, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je t'entends, bonjour.
Ouais. Donc salut, alors je te présente vite fait, donc, tu es conducteur de bus à la RATP. Donc au centre bus de Bervilliers, et aujourd'hui on t'a invité pour avoir ton point de vue du côté RATP sur différentes annonces du gouvernement, sur cette possible limitation du droit de grève, le licenciement des fonctionnaires, parce que là aussi à la RATP il y a une bonne partie des agents RATP qui sont sous statut, et ainsi que la privatisation, là aussi, de la RATP et le cassage en règle du transport public en petite banlieue, c'est-à-dire qu'on n'aura plus la RATP et les réseaux de bus comme on le connaît actuellement, mais divisés en différents lots. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter plus précisément, pour ceux qui ne te connaissent pas?
Moi, je m'appelle Ahmed Béral, comme tu l'as bien dit, je suis chauffeur de bus, mais chauffeur de bus à Rennes, pas au Bervilliers. Ça fait 20 ans que je suis chauffeur de bus, je suis syndicaliste aussi à la CGT, et j'ai été menacé à l'époque, il y a 2 ans de ça, par la direction de la RATP, pour essayer de me licencier. Le ministère du Travail a refusé de licencier.
Donc on t'a menacé de te licencier juste pour avoir fait ton travail. Tu l'as entendu comme nous, et on en a parlé avec le camarade de la SNCF juste avant. Ils veulent limiter le droit de grève en protégeant, en sanctuarisant soi-disant 2 mois par an, généralement autour des vacances, lors d'événements spéciaux type Jeux Olympiques. Comment ça a été pris par les agents RATP?
Non, mais déjà, il faut qu'on remette un peu dans le contexte. Ces gens-là, là, ces sénateurs qui disent oui, il faudrait faire moins de grèves, je pense que ces personnes-là, eux-mêmes, ne savent même pas c'est quoi le coût de travailler. Hein, ils ne pensent pas qu'ils travaillent. Ils touchent 7000 euros de salaire, déjà, c'est un point. 2, ils viennent de s'augmenter de 700 euros à eux tout seuls. Ben, nous, on aimerait bien se faire augmenter de 700 euros sans faire la grève. Mais ces gens-là, ils n'ont pas besoin de faire la grève. Ils veulent nous soumettre à dire qu'on ne peut plus faire grève pour leurs intérêts à eux. Mais nous, on fait grève, c'est pas par plaisir. Nous, on fait grève parce qu'on demande des augments de salaire suite à l'inflation. Ces gens-là, sont des sénateurs, je les appellerais, sont quand même des guignols de la République, qui sont là pour nous mettre des choses en place pour nuire à nos grèves. Mais nous, on fait grève, comme je le dis, c'est par intérêt pour tous les salariés de l'entreprise. C'est parce qu'on fait grève parce qu'il faut augmenter les salaires. Quand vous touchez 1600, 1500 euros à l'entrée, quand vous rentrez à la RATP, la personne ne peut pas vivre. Si elle a un loyer à 700 euros, 800 euros, c'est comment pour faire sa vie ici? C'est pas que nous, on fait des grèves par rapport à ça.
Plus précisément, est-ce qu'on en a parlé au sein des... entre salariés? Est-ce qu'on en parle dans ton centre-bus, dans ton syndicat? Précisément, quelle a été la réaction des salariés de la RATP?
Mais non, mais bien sûr, que ce soit chez les organisations syndicales, toutes étiquettes confondues, que même les chauffeurs qui font grève, bien sûr, c'est inadmissible. On veut casser la grève, et la grève, d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui. Grâce à ces grèves-là, on a gagné plein de choses. À l'époque, il n'y avait pas de congés payés, il n'y avait pas de sécurité sociale. Pour les anciens qui se sont battus grâce à la grève. Et aujourd'hui, on veut nous retirer un droit de grève. Mais la grève, c'est pas fait pour aller à la pêche, la grève. On l'a fait parce que on a envie de se battre pour nos conditions de travail. Là, aujourd'hui, on parle d'ouverture à la concurrence. On est obligé de se mettre en grève pour défendre, pour être contre l'ouverture à la concurrence. On se bat aussi parce qu'il y a les JO qui arrivent et on veut faire rouler moins de bus parce que les gens sont mal payés. Donc on se bat pour avoir des bons salaires par rapport à ça. Bien sûr que les gens sont énervés à la RATP. Et je pense pas qu'à la RATP, un peu partout, les gens ont ras-le-bol et on voit bien dans la rue ce qu'on pense du gouvernement. Macron démission, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait depuis qu'il est là, tout part en cacahuète, et nous on est là pour dire, voilà, si ça passe cette mascarade, on va continuer, on va faire grève, parce que on veut des augmentations de salaire, tout simplement.
L'autre versant de cette potentielle loi déposée par des sénateurs, c'est de limiter les préavis à 30 jours consécutifs, sachant qu'il y a déjà des conditions à la grève, c'est-à-dire le service minimum. Service minimum qui est aussi en cours à la RATP. Qu'est-ce que ça provoque concrètement quand des salariés veulent se mettre en grève? Quelles sont les démarches à faire pour un salarié s'il veut se mettre en grève?
Se mettre en grève à la RATP, il faut savoir que vu qu'on est dans le transport, il faut vous déclarer 48 heures minimum. C'est-à-dire qu'à 48 heures, il faut vous déclarer sur un service vocal, puisqu'à la RATP, on a un service internet. On a 48 heures pour se déclarer. Et si on ne se déclare pas, on ne peut pas faire la grève. Alors je ne vois pas pourquoi ils veulent rajouter, c'est certain que vous avez rajouté les 48 heures pour dire qu'il fallait un service minimum et pour dire que la grève, je vais les faire. On a bien vu que ça avait changé. On a vu qu'en 2019, on avait fait 2 mois de grève. On avait bloqué les transports. C'est-à-dire, ils peuvent inventer des lois qu'ils veulent. Mais quand il y a la détermination en face des ouvriers, face à ce gouvernement ou face aux directions de la RATP, les gens sont déterminés. On n'est pas là. On ne va pas au travail pour mourir ou pour avoir zéro salaire. Parce que nous, on se bat, ils peuvent inventer toutes les lois qu'ils veulent. On a bien un service minimum. Et même avec ce service minimum-là, ça ne fonctionne pas. Quand les gens ils ont envie de s'énerver et de dire stop à tout ça, les gens se mettent en grève. On ne va pas interdire les gens de faire la grève. Et puis, quoi encore? Les sénateurs, ils sont bien augmentés tout seuls, comme je disais, de 700 euros. Est-ce qu'ils ont demandé notre avis? Mais aussi, on pourrait dire, on ne veut pas que ça augmente. Mais aussi, on pourrait dire, vas-y, il faut les licencier, tous ces sénateurs qui ne servent à rien, à part faire la sieste dans leurs hémicycles, ils aiment bien dormir. Mais à 7000 euros, et je vois pas, ils font que la sieste. Hein. Ils ne connaissent pas c'est quoi le mot aller travailler, hein, en décalé, faire le ménage pour les hommes de ménage et les infirmières. Ils connaissent quoi du boulot, ces gens-là? Ils connaissent rien du tout, mais ils veulent nous donner des règles à nous. Mais nous, on leur répond, on fera grève quoi qu'il arrive, ils seront rentrés toutes les lois qu'ils veulent, parce que nos anciens, quand ils se sont battus à l'époque, quand ils faisaient grève, il n'y avait pas de préavis, ils étaient en grève, ils disaient qu'on venait, on les matraquait, on les tuait, et on les licenciait parce que la grève, c'était illégal à l'époque. Mais nous aussi, on fera pareil, on se battra pour nos intérêts.
Est-ce que tu veux réagir à ça, Damien?
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ahmed. Hein. Là, on a une société qui dégouline de fric par le haut, quoi. Je veux dire, les profits, les dividendes des actionnaires, parce qu'il parlait de la paye des sénateurs. Mais ça, c'est presque l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière ces gens-là, il y en a qui sont riches à milliards, à dizaines, centaines de milliards. Donc les règles pour empêcher des gens de nuire, c'est du côté de ces gens-là qu'il faut les placer. C'est contre ces gens-là. C'est eux qui nuisent à la société, c'est pas les grévistes. C'est eux qui s'enrichissent pendant que les services publics, celui des transports, des hôpitaux ou partout, sont en train de crever. Voilà, donc c'est faudrait, voilà, remettons les pendules à l'heure, comme vient de le faire Ahmed, comme ce qu'on essaye de faire. Et la grève, s'ils n'aiment pas ça, c'est parce que c'est une manière de remettre les pendules à l'heure dans la société. C'est quand nous, les travailleurs, les salariés, on arrête d'être juste au boulot et qu'on se révolte, qu'on remet les pendules à l'heure et qu'on dit « maintenant, ça suffit, c'est nous qui faisons tourner toute cette société ». Il n'y a pas un train, il n'y a pas un bus, il n'y a pas une personne qui serait soignée, il n'y a pas une bagnole qui serait produite sans les travailleurs, de ce pays ou d'ailleurs. Donc c'est quand même ça la réalité du fonctionnement de cette société et on le rappelle quand on fait grève justement.
Donc Ahmed, on va venir sur un autre sujet puisqu'on est une émission d'info. Donc il y a les Jeux Olympiques qui se passent à Paris qui vont arriver dans moins de 3 mois maintenant. Et on découvre petit à petit à quelle sauce on va être mangé, et notamment le fait qu'il y a des zones rouges dans Paris, des zones vertes, etc. Comment ça se passe à la RATP au réseau de surface, donc c'est-à-dire les bus et les tramways? Est-ce que va y avoir le même type de transport? Est-ce qu'il y aura des lignes qui seront carrément supprimées? Est-ce que vous en avez eu des nouvelles de comment ça va se passer durant les Jeux Olympiques qui seront du 26 juillet au 10 août. Hein.
Ouais, on a eu des nouvelles, hein, parce que moi, vu que je suis à la CCT, l'enceinte à la CCT, il y a des lignes qui vont être quasiment supprimées. Il y a des lignes qui vont être limitées, c'est-à-dire que s'il part de Porte de la Villette, il va s'arrêter en plein parcours pour dire aux gens de s'en venir, on n'ira pas plus loin. Mais les lignes les plus impactées, ce sera les lignes de banlieue, exactement comme le 249, le 233. Il y a des lignes d'Aubervilliers, c'est-à-dire que ces lignes-là, ils n'ont pas le métro. Je vais prendre l'exemple du 133 ou du 149, ce sont des lignes qui passent en Bugny, 4 chemins. Ils vont un peu plus que moi, ils vous partent de Bugny. C'est tous les travailleurs qui prennent ce bus-là pour aller au 4 chemins pour récupérer le métro. Ces lignes, ils vont être limités, ils ne vont pas arriver jusqu'à là-bas. Ils ne vont pas arriver jusqu'au 4 chemins, tout simplement parce que, vu qu'il y aura des trucs de géo de ce côté-là, on va dire à ces travailleurs-là, c'est que des femmes de ménage, hein, ce sera que des ouvriers, hein, c'est quand même, il y aura des femmes de ménage, il y aura les infirmières, il y aura la base, c'est la base d'en bas. Vous voyez, à qui on va dire qu'il faudra aller marcher plus d'un kilomètre, plus de deux kilomètres à pied pour aller récupérer votre train. C'est ce que Pécresse vous prépare pour les JO, pour la banlieue, c'est ça. Et en plus, il faut savoir que le ticket est à 4 euros dans les tabacs, mais il faut savoir qu'un ticket au chauffeur de bus, il coûtera 5 euros. Voilà le prix des gens qui vont payer le prix cher pour les JO.
Attends, là, tu es en train de nous donner une information qui n'est pas encore sortie. Donc, si quelqu'un veut acheter un ticket dans le bus, ce ne sera pas 4 euros, mais 5 euros.
Ouais, c'est 5 euros le ticket. Ouais. Il sera valable que pour un trajet. Hein, parce que savoir que quand vous achetez un ticket au tabac, c'est un ticket plus. C'est-à-dire qu'il est valable à peu près 1h30. On peut faire une correspondance avec. Mmh. Le ticket que vous allez acheter dans le bus, il sera à 5 euros le ticket, mais il sera bon que pour une ou deux stations. Quand le bus vous dira, voilà, on sera limité à telle place, votre ticket est bon pour la poubelle. Et il sera à 5 euros le ticket.
Que ce soit en version papier ou en version numérique.
Si on veut, ça sera à 5 euros le ticket au moment donné où vous vous trouvez dans le bus.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres surprises qui nous attendent comme ça?
Moi, je pense que c'est déjà une grosse surprise. C'est pas... Moi, je pense que la surprise, ils le savent, hein, ceux qui ne veulent pas en parler. Nous, on a les documents officiels où on sait que pour les JO, ça va être une grosse pagaille pour tout ce qui est périphérie de la banlieue, les gens qui vont aller prendre les transports parce que quasiment les bus vont être vraiment limités. Et ceux qui vont être sur Paris ne pourront même pas aller travailler en voiture ou pas parce qu'il y aura, soit de la circulation ou soit ça sera bloqué de partout parce qu'ils n'auront pas les passes suffisantes pour aller travailler. Et là, on va dire à des gens de poser soit des repos, soit des vacances forcées. Voilà, on va leur dire de poser des jours forcés parce qu'ils n'auront pas le choix.
Et dans Paris, comment ça va se passer?
Mais dans Paris, il y aura aussi pareil. Hein. Il faudra avoir des passes et ça sera beaucoup, beaucoup limité. Tous les bus, en tout cas, n'iront pas d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de retard sur les lignes que les lignes vont être coupées. Les métros vont être surchargés et les transports en commun ne rouleront quasiment pas. J'ai vu qu'on avait un liste de beaucoup de bus qui vont être limités, quasiment même supprimés. Il y a des lignes qui vont être supprimées parce qu'ils sont vraiment trop près des JO et ils ne pourront pas rouler.
Joël, tu voulais dire un mot?
Alors justement, moi, ce que je voulais savoir un petit peu dans ce contexte, et pour Damien aussi, parce qu'il semblerait que pour l'instant, tout ça passe tranquillement pour l'instant. Alors bien sûr, c'est toujours les ballons d'essai, hein, c'est toujours la même chose. Mais des fois, on sait très bien que les ballons d'essai, ça peut être des essais transformés. Et pour l'instant, on n'entend pas beaucoup de mobilisation. Il y a de la colère locale. Hein, mais j'aimerais bien vous interroger tous les deux pour nous inviter sur les mobilisations à venir, justement sur l'attaque du droit de grève, parce qu'il semblerait que l'État est en train d'acheter la paix sociale. Donc j'aimerais un petit peu avoir vos réactions et les initiatives qui vont venir justement contre l'attaque du droit de grève.
Mais sur l'attaque du droit de grève, je pense que déjà, on n'entend pas beaucoup aussi, il ne faut pas se mentir, les organisations syndicales au niveau, parce que quand on va attaquer le droit de grève, on ne l'attaque pas que pour la RATP ou pour la SNCF, on l'attaque, c'est national. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, au niveau fédéral, on n'entend pas beaucoup les gens faire des articles, des traces, et en parler réellement que là, on touche vraiment à quelque chose d'historique. Et ça fait pas beaucoup de bruit. Nous, on sait à quelle RATP, on en parle beaucoup entre nous. Mais c'est comme juste sur la base qui en parle. Mais je pense que ça, là, c'est confédéral. Et là, il faudrait vraiment faire quelque chose de très fort. Parce que supprimer la grève, c'est donner encore plus de pouvoir que le patron. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de pouvoir. Il peut licencier pour un oui, pour un non. Alors, ça veut dire qu'en plus de retirer le préavis de grève, ça voudrait dire quoi? Qu'on pourrait même être solidaire de nos collègues se mettre en grève. Quand on voudra licencier des collègues, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut virer quelqu'un jour au lendemain avec la préalisation qu'on est en train de mettre en place dans les dépôts. Et voilà. C'est ça aussi la grève. C'est pas aussi se dire qu'on se bat pour avoir des nouveaux salaires. Parce que des fois, quand on veut virer un collègue ou un camarade à la RATP ou même à la SNCF, on se met en grève pour être en solidarité avec le collègue. Et ça aussi, on veut y toucher.
Damien?
Non, mais la réponse, ça va être de faire grève, en fait. Enfin, je sais
pas. Est-ce qu'il y a. Chez la CGT Cheminot ou même à Sunrail, est-ce que ça prévoit de répondre à ça, en fait? Est-ce que ça prévoit de répondre à la limitation du droit de grève dans les transports publics? Est-ce que ça prévoit, au niveau confédéral et au niveau de l'Union syndicale solidaire, de répondre au fait qu'ils veulent faciliter le licenciement des fonctionnaires? Parce que ça, on n'entend pas. Je n'ai rien entendu de ce côté-là.
Bah, tu as eu des communications des syndicats suite aux annonces des sénateurs. Ça, bon, il n'y a qu'à aller voir sur les sites et tout. Après, ça suffit pas. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la grève, quel que soit son encadrement, quel que soit le fait qu'on y ait droit ou pas, parce que je rappelle, hein, je veux dire, le droit de grève, ça n'existe pas dans plein de pays. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a des soulèvements, il y a des grèves de partout. Hein. Donc le problème, c'est qu'on ne se laissera pas faire. C'est,
oui, ça, comme à Châtillon, où ils avaient...
Ils peuvent mettre des couches et des couches de droits, de lois, de je ne sais pas quoi. On ne se laissera pas faire. Voilà, c'est ça le message. Et ça, bah oui, les collègues, franchement, vous croyez quoi? Quand on n'a pas de quoi faire bouffer sa famille, est-ce qu'on va se demander « Ah merde, est-ce que dans l'article de loi de la Constitution de je ne sais pas quoi, j'ai le droit, j'ai pas le droit ?» Non, on s'en fout tout ça. Voilà, on se bat pour défendre notre beefsteak, nos intérêts. Et c'est ça ce qui nous attend dans les mois, les années à venir. Et là-dessus, bah, on ne lâchera pas l'affaire, c'est sûr.
Est-ce que tu peux, par exemple, il y a un exemple fameux en région parisienne, c'était le technicentre de Châtillon qui avait marché sur cette limitation du droit de grève, c'est-à-dire de prévenir 48 heures à l'avance. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, vite fait
Non, bah t'as un peu tout dit. Alors la raison précise, j'avoue que je m'en souviens plus, parce que c'était il y a quelques années, mais c'était sur un truc lié aux conditions de travail des collègues, et où ils avaient posé le sac, comme on dit. Ils avaient débrayé, ils avaient fait grève, sans se soucier de savoir s'ils avaient bien rempli le petit papier de la bonne virgule de je sais pas quoi. Voilà. Il fallait se battre, il fallait se défendre, ils ne se sont pas laissés faire, et terminé, il ne s'est rien passé. Voilà, parce que quand on a la force collective, la force du nombre, quand on est organisé, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi ? Mais pour une raison simple, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir dans cette société. C'est nous qui faisons tout tourner en réalité. Donc les trains, les bus, tout ce que vous voulez, il n'y a rien sans les salariés. Donc on ne peut pas faire sans nous, et on le rappelle, quoi.
Ahmed, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette division en lots qui vous attend dans le réseau de surface, chez les bus et tramways, donc on en est où de tout ça, de cette vente à la découpe?
La vision, là, déjà, normalement, ça aurait dû être pour 2025, mais vu qu'il y a du retard sur la découpe des lots, ça part, c'est qu'il y a des dépôts qui n'ont pas trouvé preneur, parce qu'ils ont retardé l'ouverture à concurrence à 2 ans, en 2027. Mais après, la réalité, c'est que l'ouverture à concurrence, c'est une mascarade, hein. La RATP, ils ont 4 piles de France, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 piles de France à la RATP. Tous les patrons de la RATP...
Tu peux nous rappeler ce que c'est 4 piles de France ?
La 4 piles de France, c'est la boîte privée qui va racheter la RATP, qui va récupérer quasiment 95% des lignes.
D'accord.
Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à 4 piles de France, c'est que des anciens cadres ou maîtrises que je connais qui sont tous à 4 piles de France. C'est-à-dire qu'on va juste faire transférer des personnes, des chauffeurs de bus avec leur dépôt sur une nouvelle étiquette pour dire que maintenant, voilà, si vous dites « Ah, on peut vous virer, le salaire, il va changer, on va changer vos conditions de travail. » C'est ça, l'ouverture à concurrence. C'est les mêmes patrons, c'est les mêmes bus, juste qu'on aura un nouveau contrat encore plus dégradé. C'est ça, l'ouverture à concurrence. Eux, les patrons, toucheront toujours plus, et nous, chauffeurs, on va vous retirer ce qu'il y a de ce qu'on peut retirer sur la paie. On ne peut pas toucher à la fiche de paie, mais on peut toucher ce qu'il y a autour.
Et aussi les usagers. Par exemple, le lot. Toi, tu seras dans quel. Est-ce que toi, déjà, tu sais dans quel lot tu seras?
Oui, on est dans le lot, je ne me trompe pas, 42. C'est celui-là qui est jumelé avec Flandre et Pavillon-sous-Bois.
Donc, les deux en Seine-Saint-Denis.
C'est ça, c'est les deux en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas si c'est Capil de France qui va le récupérer ou si c'est Veolia ou Transdev. Mais là, en tout cas, la RATP ne pourra pas récupérer tous les dépôts. On sait qu'il y aura des dépôts qui vont être vendus à Veolia ou Transdev. Et voilà, c'est l'ouverture à la concurrence, et c'est bon que pour les patrons. C'est pas bon pour nous. C'est pas Mme Pécresse qui a mis ça en place. Et elle sait que ça va coûter des milliards. Mais elle est obstinée à se dire, je veux ça parce qu'elle a des amis assis, peut-être qu'elle va revendre ses dépôts-là.
Juste pour donner un exemple sur l'ouverture à la concurrence, c'est quelque chose qui existe déjà dans plein de secteurs de la société. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu plein de grèves de salariés du nettoyage ces dernières années. Parce qu'en fait, c'est déjà comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tous les 4 ou 5 ans, il y a des appels d'offres et les travailleurs de ces boîtes-là, ils se font balader. Pour 4 ans, ils sont chez Elior. Pour 4 ans, ils sont chez Honnête. Pour 4 ans, ils sont chez Nord Service, etc. Et tous les 4 ans, ils changent de patron qui remet du coup le compteur à zéro sur les conditions de travail, etc. et qui les balade. Bon. Et du coup, ça déclenche des grèves. Donc ce fonctionnement-là qui est l'eldorado des patrons, parce que les CDI, c'est comme si ça n'existait plus, les conditions de travail, c'est comme si ça n'existait plus. Bon, bref, c'est ça qui généralise à la RATP, à la SNCF. Donc c'est ces problèmes-là qui vont se poser à tous demain. Quoi.
Mais déjà que c'est compliqué. Oui. Déjà que c'est...
Ouais, non, après, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il faut savoir que nous, à la RATP, notre premier contrat, quand on va basculer vers la concurrence, ils nous garantissent sur le premier contrat, ils touchent à rien. Mais sur la deuxième, après dans 5 ans, il y aura le deuxième appel d'offres.
Tout à fait.
Et sur le deuxième appel d'offres, c'est là qu'ils vont tout dézinguer. Et on sait qu'ils vont toucher sur le 1/5, sur tout ce qu'ils avaient. Ils ont déjà préparé le coup. Hein. On va finir comme Elior, toutes ces boîtes-là, avec qui, à chaque repreneur, on retire, on rajoute 6 heures de plus de travail, 2 heures, on retire des repos, des congés payés, et ça va être comme ça jusqu'à ils ont tué la boîte.
Mais tous les 5 ans, ça va pas être possible, ça va être une catastrophe pour la... Parce que les transports, c'est le secteur où le fait de prévoir est très important. On peut pas prévoir sur 5 ans, sachant que dans 5 ans, on va rechanger, etc.
Et eux, ils s'en foutent, parce qu'il suffit de prendre juste en Angleterre. On a bien vu qu'est-ce que ça donnait la privatisation. Les métros sont en rade, les transports en commun, ça coûte une blinde. Prendre le bus en Angleterre, ça coûte super cher. C'est les tickets les plus chers d'Europe. Voilà, on va finir comme les Anglais. Et un jour, on va dire, ah, c'était une mauvaise idée de Madame Pécresse, il faut revenir au service public. Voilà, mais pour l'instant, pendant 10 ou 15 ans, ceux qui vont souffrir, c'est les gens qui prendront les transports, les petites vieilles à qui on va supprimer leur bus, parce que c'est pas rentable de faire rouler un bus entre telle heure et telle heure parce qu'il est vide. Alors avec un service public, on fait rouler des bus pour ces personnes âgées, même s'il y en a 5 ou 6, mais ils ont un bus pour aujourd'hui, avec un nouveau patron, il supprimera des lignes parce qu'il n'est pas assez rentable.
D'accord, donc on va devoir s'arrêter là. Merci Ahmed, merci à Damien.
Ouais, de rien.
Merci à vous, merci à toi.
Joël, tu veux rajouter un dernier mot ?
Oui, tout à fait. Ce que vous voulez rajouter en cette fin d'émission, vous avez entendu la pause musicale, c'était Bob Marley. Et en fait, on voulait rendre aussi hommage à Lucien Gavarin qui est décédé dimanche. Et du coup, voilà, on voulait lui rendre hommage. Parce que Lucien a été là pendant très très longtemps sur la radio. Pendant le Covid, il a assuré la continuité de cette radio. Et on voulait lui rendre hommage. On s'associe aussi à la peine de ses proches, sa famille et ses amis. Et pour cela, voilà, on lui dédie cette émission. Eh bien, écoute, Lucien, salut. Et en tout cas... ce que j'ai envie de dire, c'est bonne route.
Bon, je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.